Et si on partait sur Europe 1 tous les jours, un grand voyage entre 16h et 18h. Nous sommes au Japon avec mes amis voyageurs Nathalie Elal.
C'est moi.
Avec Emmanuel Jarry, notre gastronome.
Présente.
Avec Jean-Bernard Carrier.
Toujours là.
Notre guide du guide Lonely Planet. Alors, le Japon, c'est loin.
C'est à exactement à 9700 km à vol d'oiseau de ce studio, Philippe.
Ouais.
Donc, il faut compter entre 10 et 12 heures d'avion.
Ouais.
Quand ça reprendra, bien sûr. Dans quelques mois, espérons-le. Alors, le Japon, il faut quand même dire, c'est un archipel.
Oui.
Ce n'est pas une seule île, c'est 4 grandes îles, plus encore un filet d'îles tout au sud. Et ça fait plus de 3000 km. Si on suit l'ensemble de cet archipel, ça fait plus de 3000 km. Donc, c'est grand et c'est assez fin.
Voilà. Et c'est très différent du nord au sud.
Voilà, donc il y a différents climats, différentes régions, et il y a deux mers. Il y a la mer du Japon sur la gauche, et vous avez l'océan Pacifique sur la droite.
Nous sommes en ligne depuis le Japon avec Xavier Andujar, qui est français, installé à Osaka, marié à une japonaise, accompagnateur photographe au sein de l'équipe des Japon Safari. Bonjour Xavier.
Bonjour Philippe, et bonjour à tous.
Bonjour.
Il est quelle heure au Japon là ?
Eh ben là, il est minuit 11, très exactement.
Ah bon, on doit vous remercier alors, parce qu'on vous fait coucher tard.
Oh, ça va, ça devrait aller, je suis encore jeune et fougueux.
On ne manque pas de temps.
Joli programme. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir longtemps au Japon comme ça ?
Alors moi, ce qui m'a poussé à partir au Japon, c'est que j'ai fait une dépression en France et j'ai eu beaucoup de soucis. Et pour me sortir de tout ça, j'ai décidé de tout quitter et de partir dans un pays qui était très difficile d'accès.
Ah, vous vouliez quelque chose de complètement différent, complètement changeant ?
Je voulais perdre tous mes repères et puis repartir de zéro, on va dire, pour vraiment me sortir de tous ces problèmes et,
ouais.
et trouver ma voie.
Et est-ce que vous l'avez trouvé ?
Je pense, oui.
Ouais.
Je pense que là, je suis bien installé au Japon. C'est assez agréable à vivre.
Vous avez rencontré une japonaise qui est devenue votre femme ?
Tout à fait.
Ouais.
Alors, je l'ai rencontrée en France en apprenant le japonais.
Ah bon ?
Oui, parce que j'ai décidé d'apprendre le japonais avant de partir au Japon, puisque je savais que le Japon sans parler et lire le japonais, c'était un peu compliqué.
Ouais. Nathalie ?
Xavier, autant... les femmes japonaises ont la réputation d'avoir un caractère bien trempé. Est-ce que vous confirmez ?
Je confirme.
Autoritaire, paraît-il.
Pas forcément autoritaire, mais elles ont un vrai bon caractère. Ouais, ça,
ouais.
C'est fun, tous les jours.
Alors, y a quelque chose moi, qui m'intrigue beaucoup, parce que j'ai voyagé un peu au Japon, moins que vous, c'est la relation aux Japonais. C'est difficile, je trouve, simplement d'échanger, de se comprendre. Comment vous racontez ça, vous ?
Ben, ça prend des années en fait. Quand on arrive, les premiers instants au Japon, on est français et on a nos caractères de français, on a nos attitudes de français et on est un peu brut par rapport aux Japonais. Les Japonais sont très discrets, ils sont toujours un peu cachés. Il faut toujours percer un petit peu le mystère. Ils sont pas en train de crier comme les Français, ils montraient jamais leurs sentiments. Donc tout ça, il faut le percer. Et puis petit à petit, on se fait des amis, on rencontre des gens et tout prend forme.
Mmh. Il y a quelque chose de très subtil. On va, par exemple, ils ont du mal à dire non. C'est difficile d'avoir un refus. Alors qu'en fait, ils savent tout à fait ce qu'ils
veulent. On ne
dit
jamais non. En fait, c'est ça. En fait, on ne dit jamais non parce que dire non, c'est faire une agression envers l'autre quelque part. C'est abrupt, le non. Pour les Japonais, on ne fait jamais de choses abruptes. On est toujours en poulet. On fait attention à tout.
Mais alors, comment ils disent non quand ils veulent dire non alors qu'ils ne peuvent pas dire non ?
On le fait comprendre en expliquant que vous voulez faire ça, mais c'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez faire, mais c'est un peu compliqué. Il va falloir faire ci, faire ça. C'est un peu difficile. Ils vont empouler les choses de cette manière. Ils diront jamais non directement.
Ouais. Et alors, moi, ce qui m'épate aussi, et ça se sent même dans les transports en commun, c'est l'attention portée à l'autre.
C'est permanent. Ils sont sans arrêt à faire attention à l'autre. Le japonais, c'est vivre en société, en groupe. Comme le pays est à 75% de montagne, deux fois plus de population que la France, deux fois moins de territoire. Finalement, on se retrouve avec des villes qui sont très compactes, avec énormément de monde dans ces villes-là, et ils sont obligés de faire des efforts pour savoir vivre tous ensemble. Ils prennent soin les uns des autres.
Alors, ça se traduit très concrètement, c'est-à-dire que on ne se bouscule pas, il y a toujours une distance, la distanciation sociale, ils connaissent ça naturellement.
Toujours
comme ça, même quand le métro est bondé, il n'y a pas de bousculade.
Jamais. Les seules bousculades, à la limite, c'est pour réussir à fermer les portes du métro à certaines heures, ouais. mais ça reste très rare. En général, il n'y a pas de bousculade, tout le monde fait attention à l'autre.
Ouais.
Tout le monde sait comment se positionner par rapport à l'autre. On laisse les gens sortir, on se met sur le côté, puis ensuite on rentre.
Ouais.
C'est très différent de la France.
Ouais, très différent. Mais est-ce que c'est pas un peu bloquant? Est-ce que finalement tout le monde n'est pas un peu timide, un peu réservé? C'est pas facile pour établir des relations comme ça.
C'est pas facile, mais ils sont pas si timides que ça. Il y a le comportement qu'on a dans la société en général, et puis il y a le comportement qu'on va avoir dans les restaurants, qu'on va avoir dans les bars, dans les cafés, où là on peut rencontrer des gens très facilement. Vous pouvez aussi discuter, quand vous parlez japonais, avec n'importe qui dans la rue et avoir une discussion d'une heure sans interruption. Les Japonais sont pas si timides que ça, mais ils ont certaines réserves par rapport à leur culture.
Ouais. Et alors, il y a une chose aussi avec laquelle j'ai beaucoup de mal là-bas au Japon, c'est que quand vous avez un rendez-vous à 10h, la politesse, c'est d'arriver à 10h moins 10. C'est-à-dire que si vous arrivez à l'heure juste, vous êtes déjà impoli. Et ça, je veux dire qu'en tant que Français, on a du mal à s'y habituer, parce que nous, c'est plutôt jusqu'à 10h10, je suis bon, quoi. Et c'est très, très particulier. Mais il y a plein de choses comme ça. On continue.
Il y a beaucoup de petits codes. Oui.
Il y a beaucoup de petits codes. On continue à découvrir le Japon avec vous, Xavier, dans un petit instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tous les jours un grand voyage entre 16h et 18h, nous sommes aujourd'hui au Japon, dans cet extrême ailleurs si difficile parfois à appréhender. Nous sommes toujours en ligne également avec Xavier Andoujar, qui est photographe installé au Japon. Et moi, il y a un exemple de lieu où l'on ressent, je trouve, le mieux la difficulté d'appréhender le Japon. C'est un jardin. Un jardin que j'ai découvert un jour à Kyoto. Alors Kyoto, pour les visiteurs, c'est un peu le passage obligé au Japon. Hein. Kyoto, c'est la ville des temples paisibles. Il y a plus de 1000 temples, des jardins sublimement, finement entretenus, des petites maisons de bois. Il y a 17 sites classés au patrimoine mondial de l'humanité là-bas à Kyoto.
C'est énorme.
C'est un peu le Japon d'autrefois comme on l'imagine. C'est magnifique. Et beaucoup de Japonais m'ont dit « Ah, il faut absolument que tu ailles voir le jardin de pierre du temple Ryōjin ». Ryōjin, je ne sais pas si je le dis bien.
Vous prononcez bien.
Oui, ça, j'essaye. Alors, c'est un jardin qui a été fondé il y a plusieurs siècles. Et les Japonais font la queue pendant des heures pour aller voir ce jardin. Il est célébrissime, à tel point qu'on m'a conseillé d'y aller au petit matin avant l'arrivée de la foule. Donc, je me suis levé à 5h30 pour être devant à 7h. Et là, je suis accueilli par un guide très smart, en costume, très poli, qui me fait entrer, qui me fait enlever mes chaussures, parce que pour visiter ce jardin, il faut enlever ses chaussures, c'est pas courant. Alors j'entre comme ça sur la pointe des pieds, et puis j'ose pas parler fort, parce qu'on entre dans un endroit très très calme, très paisible, comme ça, et il m'amène dans une sorte d'espace qui ressemble à une sorte de cour entourée de murs. Au sol, vous avez juste du gravier finement ratissé, avec visiblement un ratissage très précis. Hein. Les stries, on sent qu'elles ont un sens très très ordonné. Et puis, dans ce calme total, sur ce gravier, réparti au milieu de la cour, des pierres. 15 pierres disposées, semble-t-il, à des endroits très précis. Des pierres qui sont comme des gros cailloux ou des petits rochers, pour vous donner un peu la dimension. Et sur le côté de la cour, vous avez des bancs pour s'asseoir et regarder. Et c'est tout. Donc voilà, le jardin de pierres, c'est ça. 15 pierres à regarder. Donc, moi, en bon français, je suis un peu circonspect. Donc, je demande tout timidement à mon guide, c'est ça, il y a que ça. Je suis un peu gêné, vous voyez. Et le guide, d'un air très sérieux, très respectueux, me dit, ben, oui, vous avez là 15 pierres déposées devant vous. Bon, donc j'ose rien dire, tellement ça a l'air presque sacré à ses yeux, tellement abstrait pour moi. Et donc, je comprends rien, en fait. Et on est seul face à ces pierres que je regarde l'une après l'autre. Et puis, Bon, au bout d'un moment, je dis les choses. Je suis désolé, monsieur, mais je ne ressens rien. Et il me répond, ah, c'est normal. Au début, la première chose à faire, c'est de s'asseoir, de se redresser, de respirer, de regarder, en laissant son esprit ouvert. Mais c'est une question de pratique. Il me regarde avec un air comme ça, un peu austère. Il faut pratiquer. Il faut venir plusieurs fois avant de ressentir quelque chose. Ou alors au moins rester 20 minutes. Donc bon, je reste 20 minutes. Je me sens un peu plus calme au bout de 20 minutes. Mais bon, je pense que c'est surtout parce que je suis assis. Et je pose des questions, j'essaie de savoir. Et il n'y a pas de réponse. Personne ne sait qui a créé ce jardin. Pourquoi est-ce qu'il est zen ? Les choses sont comme ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aurait plus de 200 ans. Alors j'ai quand même questionné et questionné pour satisfaire mon esprit de cartésien. Le guide m'a quand même dit, un chercheur a émis l'hypothèse que la disposition des pierres influe sur la biochimie du cerveau et apaise. Et que si jamais l'on déplace une pierre de quelques centimètres, l'équilibre est rompu.
Wow. Des histoires d'énergie, en fait.
Ouais.
Donc c'est abstrait, c'est difficile à comprendre. Des fois, on croit comprendre tout à coup et puis on ne comprend plus rien.
Ça, c'est le Japon.
Et ça, c'est le Japon.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Goux.
Nous sommes toujours en direct du Japon avec Xavier Andujar. Vous le connaissez, ce jardin mystérieux ?
Ah, bien sûr, tout le monde le connaît.
Mais vous avez ressenti quelque
chose,
vous ? C'est
un des joyaux du Japon. Alors non, la première fois que j'y suis allé, j'ai eu à peu près la même réaction de vous, mais en plus, j'avais pas de guide avec moi. Donc j'ai regardé le gravier et les rochers un peu avec un air circonspect, puis je suis rentré chez moi et j'ai pas compris. Et ça prend du temps, en fait. Et ça, il faut le décoder, il faut le déchiffrer, il faut connaître l'histoire.
Ouais.
Les temples, les jardins secs, c'est des endroits qui sont normalement dédiés à la méditation.
Ouais.
Donc c'est un endroit où les moines zen viennent, se posent et puis restent 20-30 minutes, méditent, regardent le néant sur ce jardin de gravier, puis laissent le jardin venir à eux. Et ça crée des sentiments en eux qui vont essayer de faire passer en eux d'une certaine manière. Mais c'est sûr que la visite touristique est un peu bizarre quand on arrive et qu'on voit le gravier et les rochers. Après, quand on connaît un petit peu plus l'histoire, c'est intéressant.
Mais en fait, vous savez, j'ai l'impression que c'est une forme d'humilité, en fait. L'état d'esprit, c'est l'humilité qui est recherchée, non ? Je me trompe ?
Mais alors, je pense que non, je pense que c'est surtout typiquement du bouddhisme zen. Ah, et le bouddhisme zen, c'est d'épurer au maximum les choses. Une des choses, par exemple, dans ce jardin, c'est qu'on a la partie donc avec le gravier et les rochers. Et cette partie-là est extrêmement sèche puisqu'on n'a que de la pierre. Elle vient contrebalancer avec l'autre partie du temple qui, elle, est recouverte de mousse, d'arbres et de verdure et d'eau. Et tout le jardin, en fait, c'est un ensemble. C'est cette partie sèche et la partie qui est de l'autre côté qui va jouer, qui va créer des émotions chez les gens.
Ah, le lâcher prise, c'est ça.
Vous avez mieux travaillé votre jardin que moi. Hein.
Ouais, c'est impressionnant quand même.
Peut-être.
Comme démarche.
Alors, c'est un voyage absolument infini, le Japon. C'est ça que je trouve que le plus grand voyage dans ce pays, c'est tout ça, c'est comprendre comment pensent les Japonais. C'est ça, vraiment ça qu'elle.
C'est déchiffrer, essayer de comprendre, et c'est pas facile. Je pense que je peux rester moi ici 50 ans et pas comprendre tout ce que je vois.
Ouais. Et avec votre femme, ça se passe comment alors ?
Ça se passe très très bien.
Vous avez réussi à
très,
la déchiffrer.
Très bien, mais c'est parce que c'est une femme exceptionnelle, c'est pour ça. Ça se passe très bien. Il y a forcément des chocs culturels. Des fois, on se comprend pas, mais on sait que c'est dû à notre culture plus qu'à autre chose.
Très bien. Merci beaucoup, Xavier, de nous avoir parlé un peu de votre Japon. Vous en parlez très joliment.
Ben, c'était un plaisir.
À très très bientôt. J'espère. Dans un instant, on va continuer à parler du Japon et d'amour, l'amour à la japonaise. Et ça, donc évidemment, c'est Nathalie qui va s'y coller dans quelques instants sur Europe 1.